Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Milano, la Banca Nazionale dell'Agricoltura. 10 kg di tritolo hanno seminato la morte e la distruzione. 14 i morti e 80 i feriti, una strage.
Au sommaire aujourd'hui, une émission qui nous a été inspirée par un livre inspirant. Voilà, un livre qui vient de paraître chez Façonnage Édition. Alors non seulement c'est un livre qui a du fond et dans la forme, il est magnifique aussi, c'est un bel objet. Un livre qui s'appelle Rosso Sangue, le cinéma italien des années de plomb. Et c'est un livre signé de l'illustre Jean-François Roger. Ça nous a donné envie du coup de regarder un peu dans l'actu des films qui se situent dans cette période et qui sortent actuellement sur support physique, comme l'on dit maintenant. Et du coup, on va vous parler de quelques films qui datent de cette époque. Alors, en condition qu'on s'entende sur quand on débute, quand on termine les années de plomb, voilà. Moi, j'ai choisi de les faire débuter à partir de 1968. Mais je sais qu'il y a débat entre les historiens. Certains font démarrer un peu plus tard, en 69, avec l'attentat de la Piazza Fontana. Mais on en discutera dans l'émission. En tout cas, il y a un film de 68 dont je voulais vous parler, et qui arrive là dans les bacs, comme l'on dit, c'est Le Tueur frappe trois fois de Massimo Dallamano, qui sort chez Rimini Édition. On reviendra aussi sur des films sortis chez Carlotta Film récemment, sur lesquels on avait dit des choses, mais on peut encore dire plein de choses dessus. La Tarentule au ventre noir, un film de 71 de Paolo Cavara, et Torso, un film de 73 de Sergio Martino. Et enfin, on parlera aussi, parce que c'est un film un peu queue de comète, à la fois de la fin des années de plomb, mais aussi de la fin d'un certain cinéma italien. C'est La Guerre des gangs de Lucio Fulci, un film de 1980 qui ressort dans un superbe mediabook chez Artus Film. Et puis rien n'empêche après qu'on, comme on le fait assez souvent, qu'on bifurque vers d'autres films parce qu'on est des grands bavards. Et d'ailleurs, avant de bavarder tous ensemble, l'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Lucie Mautier, Kevin Boissezon, Thierry Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Et quand je parlais de grands bavards, eh bien, avec moi le bavard en chef, hein, voilà, mais je suis donc entouré d'autres grands bavards, à savoir Johan Chanoir, dit le chat errant, historien, critique de cinéma et enseignant à Sciences Po. Miaou à toi, Johan.
Miaou à toute l'équipe.
Autre bavard présent dans ce studio, et pas des moindres, hein, s'il vous plaît, Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projections Perdues, dont il y a très très souvent des nouveaux épisodes d'ailleurs, hein, ils sont très productifs, nos amis Louis Artige et Damien Demey. Alors le podcast donc, de la Chimera Tech qui est disponible sur YouTube, bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Et puis, le grand bavard, il est aussi bavard qu'il a peu de cheveux en fait. C'est Thomas Roland, le loup-garou picard bien sûr, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Bonjour Thomas.
Bonjour Jérôme, bonjour Damien, bonjour Johan et bien évidemment bonjour à toutes.
Thank you. comme je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, en annonçant le sommaire, effectivement, on a été tous un peu bluffés là, par le livre de Jean-François Roger, qui est directeur de la programmation à la Cinémathèque française, mais qui se fait assez rare, en fait, en termes d'auteur de bouquins. Alors, il est critique au Monde, mais par exemple, en termes de bouquins, il n'y a pas énormément de choses de lui. Hein. En 2012, il y a eu L'œil qui jouit, paru chez Yellow Now, mais qui réunissait déjà des chroniques existantes. Puis il y a eu L'œil domestique Hitchcock et la télévision, qui est paru chez Rouge Profond en 2014. Donc ça faisait longtemps qu'il ne nous avait pas pondu un livre. Alors, puis là, c'est un livre somme, hein, qui est paru aux éditions Façonnage, donc qui s'appelle Rosso Sangue, le cinéma italien des années de plomb, où Jean-François Roger donc, se propose de parler de la situation politique de l'Italie de cette époque et de la mettre en parallèle avec la production de films. Alors, on apprend des choses. Hein. Par exemple, moi, je pensais que le Cuccio de Sergio Solima était un personnage mythique. Alors, il est cité hein, par quelques-uns des membres de différentes factions de gauche. Mais en fait, la vraie vedette hein, pour les militants... et en particulier les brigadistes, et surtout à la Lotta Continua, c'est vraiment le personnage de Thomas Mignan, mais dans Compagnie Rose, quoi, voilà, de Sergio Corbucci. Il faut savoir que, ça je l'ai découvert en lisant le livre, il y a énormément de personnages issus du cinéma populaire qui sont cités par les, comment dire, les militants d'extrême-gauche italiens. Donc il y avait un vrai lien avec le cinéma, à la fois intello, mais aussi le cinéma populaire. Mais on va développer, et pour parler un peu de la période, avant de laisser peut-être Johan nous présenter ce que furent les années de plomb, mais juste pour vous dire que bon, moi j'ai choisi de débuter en 68, parce que je sais qu'il y a guéguerre, ce que je vous disais tout à l'heure, entre les historiens, certains disent 69 avec l'attentat de la Piazza Fontana, d'autres disent automne 68. Moi j'ai choisi 68 aussi parce que ça me permet de parler d'un film qui pour moi entre en lien aussi avec l'histoire, la petite histoire et la grande histoire, qui est un film de Massimo Dallamano, mais on va y revenir après. Beaucoup après font terminer les années de plomb, en gros, peu de temps après l'enlèvement d'Aldo Moro en 78, c'est-à-dire en 82, il y a une loi sur les repentis, et qui fait que, du coup, ça fait un peu imploser ce qui restait de ces mouvements. Mais toi, Johan, peut-être nous en dire un peu plus sur les années de plomb.
Alors effectivement, il y a des débats historiographiques sur le début. Donc pour moi, techniquement, ça commence le 12 décembre 69 avec l'attentat de la Piazza Fontana à Milan, hein, qui, je crois que c'était la Banque Nationale d'Agriculture, hein, qui tue à peu près, on va dire, 15 personnes hein, de mémoire. Donc généralement, c'est le marqueur vraiment de l'entrée, la sortie. Qui, effectivement, là, par contre, il y a moins d'ambiguïté, il y a moins de disputes. C'est vraiment la loi sur les repentis qui permet de casser les mouvements terroristes et d'extrême-gauche. Alors, il y a d'autres, comme toi, bon, je rentre en 68, parce que 68, en Italie, c'est comme la France, c'est vraiment... c'est vraiment terrible. Hein. Je vais vous donner un exemple. Hein. Il y a, en 68, en Italie, il y a 37 825 jours de grève. Hein, si on compare avec un pays où le dialogue social est fort, c'est un jour en Suède. Pour la même année... un peu plus de 2000 en RFA, où il y a également un dialogue social digne de ce nom. Donc ça montre d'une part l'agitation, qui valide l'hypothèse de Jérôme de commencer en 68, et d'autre part la crispation sur des rapports de classe très très forts, et d'ailleurs dont le cinéma populaire, parce qu'il faut le dire, c'est pas un cinéma académique, c'est un cinéma populaire, le cinéma que l'on aime et que l'on défend, va aborder. Il y a d'autres historiens un peu plus rares, mais ils existent quand même, qui commencent les années de plomb avec la fondation des Brigades Rouges en août 1970. Bon, on est vraiment dans un espace-temps très court, hein, 68, 69 ou 70. Mais sachant qu'effectivement, l'attentat va introduire une rupture majeure et que la fondation des Brigades Rouges, qui vont très très vite verser dans la violence, va prolonger. Donc, savoir quand est-ce que ça commence, finalement, c'est peut-être pas très le plus important. C'est de savoir quand est-ce qu'elle se termine. Même si, alors c'est un film qui n'évoque pas, hein, mais c'est un film beaucoup plus tardif. Le cinéma n'a jamais arrêté, le cinéma italien, je parle, n'a jamais cessé d'en parler. Moi, je me souviens d'un très très beau film qui n'a pas du tout marché. C'est Mon frère et fils unique, sur deux frères, un frère qui est néo-fasciste et un frère qui est proche de l'extrême gauche, enfin qui est carrément à l'extrême gauche. Et c'est vraiment un film assez récent, hein, donc ça montre bien que ça travaille toujours la société italienne. Ben, du moins, les années de plomb travaillent toujours la société italienne.
Oui, c'est effectivement un film assez récent, puisque c'est un film de 2007 et que je n'ai pas vu. Hein, donc du coup, tu me donnes très envie de ouais, bah tu me donnes très envie de le voir. En plus, il y a Ricardo Scamaccio que j'aime bien. Enfin bon, bref, je vais me plonger dans ce film. Dès qu'on sera sorti de ce studio, hein, Thomas, tu vas regarder le film avec moi. Alors l'idée de démarrer en 68, bon, elle est aussi par le fait qu'il y a une actualité là dans les sorties Blu-ray DVD qui est de nous permettre de voir enfin en France. Enfin, il était sorti en vidéo il y a très longtemps en VHS chez Lucal Vidéo sous un titre qui s'appelait Showdown, mais le film Le Tueur frappe trois fois de Massimo Dallamano, qui est un film de 68. Qui est un film qui est disponible là chez Rimini Édition, sur lequel il n'y a qu'un seul bonus. Mais c'est vraiment Stéphane Lacombe, que je salue d'ailleurs, je profite de cette émission pour le saluer, qui fait le bonus et qui est un fin connaisseur de la question, du cinéma italien, de la période. Je me rappelle d'échanges qu'on avait eu quand on a travaillé sur un projet ensemble, où quand je me trompais de quelques jours, il me reprenait. Enfin, il a une connaissance très très pointue de l'histoire italienne récente et de cette période. Et là, il intervient dans les bonus et il fixe très bien les enjeux du film. Il dit une chose qui est très juste, hein, d'ailleurs, hein, c'est que le tueur frappe trois fois, c'est un giallo qui arrive à une époque où on ne fait pas de giallo, en fait. C'est en 68, il y a très très peu de giallo qui sortent. Moi, j'ai choisi d'ailleurs de le mettre en avant dans le bouquin sur le giallo, là, qui jaune comme le sang, que j'ai écrit, parce que je trouve que c'est un des deux, trois giallo qui se rapproche quelque part un peu de ce que fera Argento avec L'Oiseau au plumage de cristal et de ce qu'a fait Bava avec Six femmes pour l'assassin. Parce qu'à l'époque, le giallo, bon, ça marche pas très bien. Hein. Six femmes pour l'assassin, ça n'a pas vraiment bien fonctionné. D'ailleurs, là, on est plus proche du crimi. Le film se passe à Hambourg. C'est une coproduction Italie-Allemagne. C'est un film un peu oublié, un peu mésestimé. Et pourtant, il s'inscrit complètement dans la thématique, à la fois dans les thématiques de Bava et à la fois dans la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, je vais vous dire pourquoi. D'abord, il y a le titre, La morte non ha sesso, qu'on peut traduire par La mort n'a pas de sexe, qui est quand même un titre très évocateur et très qu'on peut rattacher vraiment au giallo, parce qu'il y a quand même une des particularités du giallo, c'est l'ambiguïté sexuelle vis-à-vis du tueur ou de la tueuse, d'ailleurs, très très souvent, et que l'on voit dès le film de Bava, hein, Six femmes pour l'assassin, de toute façon. Il y a l'idée du trafic de drogue derrière, qui reprend à Bava. Il y a aussi quelques idées. C'est un film tout simple, en fait. Hein. C'est juste un flic qui est interprété par Sir John Mills, quand même, hein, qui n'est pas n'importe qui est un acteur qui aura un Oscar pour La fille de Ryan un an ou deux ans après ce film-là. Et il est marié à une femme qui est trop belle pour lui, que c'est Luciana Paluzzi, qui est la femme fatale par excellence dans le film. Et puis, il cherche un tueur, qui est ce tueur qui est ganté de cuir noir, qui utilise l'arme blanche. Un tueur dont on... D'ailleurs, le réalisateur nous révèle tout de suite l'identité, hein, cassant par là les clichés du genre. On sait très très vite qui est ce tueur, on le devine très très vite. Au bout de 20 minutes de film, on sait qui est le tueur. Et en fait, le film va dévier vers quelque chose... Alors, je ne parle même pas là des qualités esthétiques du film qui sont assez exceptionnelles, parce que Dallamano, c'est un grand esthète. Hein, ça. D'ailleurs, il a réalisé... Il est mort jeune, il a eu un accident de voiture, mais on en a déjà parlé dans l'émission, lorsqu'on avait parlé de Venus in Furs, de La Vénus en fourrure, qui était sortie chez Artus Film. On avait parlé en long, en large, de la vie de Dallamano. Et qu'a fait, en fin de compte, très peu de films. Stéphane Lacombe le rappelle, une petite dizaine, hein, sur sa carrière, alors qu'à l'époque d'autres tournaient comme des stacanovistes, hein, et lui il est resté célèbre aussi parce qu'il a été le directeur de la photo de Léon, en fait, hein, et c'est vrai qu'on voit que c'est un grand technicien qui soigne énormément ses films, qui soigne les plans de ses films, qui utilise la musique d'une manière très dissonante dans celui-là, enfin, c'est un vrai metteur en scène. Et là ce qui est intéressant dans le film et ce qui démontre qu'on est dans une époque où les valeurs se renversent, c'est que ce flic, en fait, il va décider de payer ce tueur pour parce qu'il a deviné qui est le tueur. Donc il va le voir et il dit, écoute, je te paye, mais tu tues ma femme. Enfin, ils font un marché. Je ne sais pas s'ils le payent ou s'ils le laissent repartir, parce que le tueur envisage de quitter Hambourg, en fait, pour pouvoir échapper à la police. Mais en tout cas, ils font un marché et il lui propose de tuer sa femme. Alors, on ne sait pas quel est le contenu du marché, parce qu'en bon réalisateur, au moment où il conclut le marché, on voit leurs lèvres bouger, mais il y a un bruit de fond qui fait qu'on n'entend pas ce qu'ils se disent entre eux. Voilà. Donc, et à partir de là, le film va devenir un film assez étrange, presque un mélodrame amoureux, un triangle amoureux, dans un monde où tous les repères s'inversent, puisque la femme du flic fricote avec les bandits, parce que on est dans une société post-Abraham Zapruder. Donc on est dans une société de la surveillance, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup abordé, on n'est qu'en 68 hein, quand même, hein, quand on parle de ça, dans le film là, et en fait tout le monde est constamment surveillé, filmé, ils passent leur temps à re-regarder des bandes pour retrouver une telle ou un tel, des gens qui filment à leur insu, des choses que d'ailleurs refera D'Alamano dans ses prochains films de manière beaucoup plus aboutie, parce que là le film n'est pas parfait, hein, c'est un bon film, c'est même un très bon film dans la période, c'est certainement un des meilleurs giallo de la période avant 70, mais D'Alamano fera mieux ensuite. Et ce qui est intéressant de voir dans ce film, c'est la noirceur du film en fait, c'est-à-dire que aucun personnage ne trouve grâce aux yeux du metteur en scène. Et en cela même, pour moi, il s'inscrit complètement dans cette période, qui est la période des années de plomb, où en particulier derrière se joue aussi la stratégie de la tension, la possible collaboration, enfin l'entretien par le pouvoir d'une atmosphère de guerre civile, voilà. Et tout ça est un peu sous-jacent dans tous ces rapports qui s'inversent et dans, on ne croit plus en rien en fait quand on sort de ce film. C'est-à-dire que on ne croit plus en la police, on sait qu'on est surveillé, on ne croit plus aux relations humaines. En plus, c'est pas vraiment un grand gauchiste, notre ami D'Alamano, ce qui transparaît de ses films en tout cas, mais là, sa vision du couple et du mariage, elle en prend un bon coup dans l'aile. Donc, on remet en cause les valeurs de la société de l'époque, sans compter qu'en plus, c'est vachement intéressant que le film se passe en Allemagne, puisqu'on sait les interactions en fait, qu'il va y avoir entre la RAF, enfin la bande à Bader-Meinhof, tout ça, Ulrike Meinhof, tout ça, et les liens que ça va entretenir aussi avec ce qui se passe en Italie. Quoi, voilà. Et du coup, je trouve que ça donne une dimension supplémentaire intéressante au film lorsqu'on l'analyse à travers son environnement politique de l'époque.
Effectivement, ça tient plus du crimi que du giallo. Alors, c'est peut-être une œuvre un peu hybride entre les deux, parce que c'est vrai que ça se passe à Hambourg, ça rappelle beaucoup de choses. En plus, c'est un port, donc il y a toute une atmosphère un peu interlope. Mais en même temps, il commence à mordre sur un autre imaginaire. Et donc, c'est peut-être une œuvre de synthèse, et c'est peut-être là, effectivement, pour reprendre ce que disait Jérôme, si on abandonne le découpage politique et si on se limite au découpage cinématographique, commencé en 68, ça a du sens. We'll be right back.
Vous écoutez Culture Prohibée. Et puis, bon, après, dans la petite sélection de films qu'on a fait, là, moi, j'ai choisi, Johan, qu'on reparle d'un film qui est un film qu'on a déjà abordé dans l'émission, mais on ne l'a pas forcément abordé sous l'angle que je veux développer aujourd'hui. C'est un film de Paolo Cavara, de 71, qui s'appelle « La tarentule au ventre noir », ou un inspecteur, ce qui est rare quand même, parce qu'il y a rarement des inspecteurs dans les giallos qui vont au bout de leur enquête. L'inspecteur Tellini, est sommé de résoudre une affaire de meurtre particulièrement sordide. Et il apprend que la victime, Maria Zani, était la cible d'un maître chanteur qui menaçait de révéler l'infidélité de la jeune femme à son époux. D'abord soupçonné, cet époux engage un détective privé pour retrouver la trace de l'extorqueur. C'est alors qu'un nouveau crime survient, au mode opératoire similaire. Le tueur paralyse ses victimes féminines à l'aide d'une aiguille d'acupuncture avant de les éventrer. Un peu donc à la manière d'une tarentule. Et ce film-là, alors on l'a un peu décortiqué en long en large récemment, mais il y a une thématique qu'on n'a pas abordée et qui, moi je sais, te tient à cœur aussi, Johan. C'est cette thématique du spleen et du spleen urbain, qui est quelque chose qui revient souvent dans le giallo et qui cadre aussi complètement avec les thématiques de cette époque, c'est-à-dire que on voit il y a eu deux Italies, il y a eu l'Italie qui a bénéficié du boom économique, il y a eu celle qui en a moins bénéficié là on est dans ce modèle urbain, dans cette société très verticale, ces grandes barres d'immeubles, ces grandes places impersonnelles, dans un univers où se déploie la masculinité toxique. C'est clairement abordé dans le film et c'est un grand film sur le spleen, la solitude en milieu urbain et qui démontre bien aussi les changements architecturaux de l'époque qui sont oppressants en fin de compte pour sous prétexte de progrès et qui oppressent et qui enferment les Italiens déjà dans une autre déliquescence à venir.
Alors tout à fait, là, pour reprendre ton idée de circulation, parce que bon, on sait que les connexions entre les brigadistes et puis les membres de la bande d'adateurs, on pourrait aussi faire une sorte de capillarité de l'espace qui suscite en lui-même, sans ajout extérieur, une tension. Et moi, je pense au cinéma d'extrême gauche japonais, parce qu'ils ont aussi un mouvement, des mouvements d'extrême gauche très puissants, parfois très violents aussi. Et dans le cinéma très militant, alors je pense à Wakamatsu, par exemple, ou Fukasaku, me semble-t-il, de mémoire, eh bien, il y a l'espace suscite des tensions tout de suite, et notamment la modernité. Alors moi, je pense à... Bon, ce film, c'est un chef-d'œuvre. Hein. En plus, nos amis Carlotta viennent de le ressortir dans une édition qui est quand même de très, très grande qualité. La tarentule de ventre noir, moi, il y a une scène de poursuite dans un paysage urbain moderniste où il n'y a pas de place, en fait, pour l'être humain. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, Jérôme, bah, certainement, hein, on voit du verre, on voit du béton, des buildings imposant, il y a même une chute qui est très très bien filmée. Bref, il y a toute une architecture en fait qui déshumanise complètement les rapports humains et la vie en ville. Alors cette modernité, on la retrouve dans de très très nombreux films, et c'est un aspect d'ailleurs très important que développe l'auteur Roger dans son chef-d'œuvre. C'est par exemple Argento, Les Frissons de l'Angoisse, par exemple, où il recrée des villes, parce que bon, La Tarentule au ventre noir a été filmée à Rome, mais par exemple d'Argento, Les Frissons de l'Angoisse, en fait, il prend plusieurs petits bouts de villes italiennes, dont Rome, mais pas seulement, avec le quartier de l'Eure, et puis il en fait une sorte de ville imaginaire, une ville puzzle, comme il dit dans ses mémoires, Rouge Profond. chez Rouge Profond, pardon. Et donc, en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et d'ailleurs, le terrorisme de ces années-là le montre bien. L'espace devient une source de tension, en fait. C'est-à-dire que plutôt que d'être rassurant, plutôt que d'offrir une sécurité, en fait, l'espace tue, ou l'espace est propice au crime, à l'attentat, à la bombe, etc. Et donc là, je pense que montrer que l'espace, et là, c'est magnifié dans la tentative au ventre noir et cette poursuite, notamment, mais pas seulement, bah, que l'espace, en fait, il a litière de tout. Il a litière de la violence, de la criminalité, des meurtres sordides. Moi, je pense que c'est un aspect très, très important dans le cinéma, en général, et dans la tentative au ventre noir en particulier.
Et après, alors, bon, c'est des choses que je vais développer dans mon volume 2 sur le Giallo, mais ce que tu dis sur Argento, c'est d'autant plus pertinent qu'en fait, ce qui fait la différence, parce que c'est très souvent, des réalisateurs ont très souvent pris différents décors pour les assembler et n'en faire qu'une seule ville. Par contre, la particularité d'Argento, c'est qu'en fait, cette cité idéale qu'il bâtit, c'est aussi une cité mentale. C'est-à-dire que c'est pour traduire ce qu'il a dans le crâne. C'est son inconscient qui s'exprime à travers ses constructions architecturales, puisque quelque part, il est un architecte aussi, Argento, quand il fait ça. Et en cela, pour moi, c'est fascinant et ça va encore au-delà de ce que peut faire Cavara, même si là, on n'a pas abordé des films d'Argento spécialement aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que tu as raison, Jean-François Roger, dans son livre « Au Sosangue », il parle beaucoup de Profondo Rosso, qui est un film au carrefour de beaucoup de choses, y compris dans ce qui est les cultures et la contre-culture à l'époque. Il y a un autre film aussi qui était sorti récemment chez Carlotta, et je sais que je vais laisser un peu la parole à mes collègues, à Damien et Thomas, mais qui est Torso. Alors lui, qui est une anticipation un peu de ce que va devenir le slasher, qui est en fait quelque part comme si le mal urbain pouvait contaminer la ville. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouvera aussi dans La longue nuit de l'exorcisme de Fulci, avec ces prostituées qui viennent en voiture de la ville dans la campagne. Et là, on a vraiment, avec Torso, c'est un film presque rupestre, j'ai envie de dire, quoi. C'est vraiment le giallo à la campagne, mais en même temps, c'est aussi révélateur qu'en fait, le mal se niche partout et de la grande paranoïa qui pouvait régner à l'époque en Italie, puisqu'on est à l'abri nulle part, en fait.
Torsio de Sergio Mattino met en avant ce qui peut être considéré comme le prototype du slasher. Tu l'as évoqué, Jérôme. On va y suivre de base une jeune américaine qui s'appelle Jane et qui est partie étudier l'art en Italie. Sauf que cette petite vie qu'elle s'est fait sur le campus avec ses amis bascule au moment où il y a un tueur qui commence à un peu massacrer tout le monde. Mais heureusement, la police semble l'avoir attrapé et Jane va pouvoir partir à la campagne pour s'éloigner un peu de toute la situation qui a dégénéré avec ses amis. Malheureusement, échapper au mal n'est pas si facile. Alors, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est l'introduction du film qui va mettre en avant des corps dénudés à travers de la lumière, des miroirs, des flashs, un peu comme si le film mettait directement en avant un lien entre l'art et le voyeurisme, ce qui est un truc que fait beaucoup les slashers et en partie les giallo, mettre des corps féminins en avant. Ici, d'ailleurs, on a beaucoup de corps féminins qui sont mis en avant. C'est un film qui a une certaine lenteur pour s'installer, je trouve, mais qui profite de quelques moments, quelques flashs, quelques instants, quelques pépites à l'intérieur de son film, notamment à travers les meurtres. Il y a un meurtre que je trouve incroyable, qui est un meurtre qui se passe en campagne au milieu d'une sorte de bois. Avant, ça ressemble un peu à une marée boueuse remplie de fumée. Il nous pose une ambiance, il nous pose un paysage dans lequel le meurtre va avoir lieu. J'étais assez surpris par ça. Et comme c'était mis en avant par Jérôme juste avant, on a l'idée d'un mal qui est propice à la ville, qui naît dans un milieu urbain. Et une fois que Jane et ses amis partent à la campagne, c'est un malheur en fait qu'elle ramène avec eux. Un peu comme une sorte de maladie qui se répandrait, qui débuterait dans les villes comme la peste, qui se répandrait derrière à travers toute la campagne. Et c'est intéressant parce que ce massacre qui arrive plus tard dans le film, il n'est pas montré. Il est seulement sous-entendu. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a des personnages à un endroit, on laisse la nuit s'écouler et le lendemain on a juste le réveil avec tous les corps autour de nous. Donc c'est un réalisateur qui arrive à mettre en avant parfois avec une assez bonne subtilité cette violence que l'on retrouve absolument partout.
Pour info, Damien, cette cette fort jolie victime hein, qui se fait tuer dans les bois. C'est Conchita Eroldi. Et Conchita Eroldi, elle a très vite arrêté sa carrière d'actrice pour devenir productrice de cinéma. Et c'est elle qui produit, par exemple, le dernier film de Dario Argento, Lunettes Noires. Voilà, pour la petite info. Écoutez Culture Prohibée spéciale cinéma des années de plomb.
C'est difficile de passer après vous deux, parce que qu'est-ce que je peux ajouter de plus que ces pertinentes réflexions sur Torso ? Alors effectivement, cette idée de mal qui se répand, hein, d'ailleurs la première scène de meurtre qui se passe sous un pont, qui je pense s'inspire du monstre de Florence, hein, quelque chose comme ça. Il y a cette idée de verticalité qui écrase les victimes, hein, ces colonnes de béton. Et il y a une évolution comme ça, justement, de cette inhumanité au fur et à mesure du film. Donc il y a cette excellente, très belle séquence de meurtre, effectivement, dans un marais, qui évoque plutôt quelque chose d'infernal, hein, un décor infernal. On se croirait chez Dante, hein, Dante Alighieri. Et ce mal qui se répand donc, effectivement, à la campagne qui est devenue une sorte de paradis hédoniste essentiellement féminin et qui donc va être parasité par le mal dans toutes dans ces deux acceptions, c'est-à-dire le mal maléfique et le mal l'homme, quoi, qui va donc corrompre ce paradis hédoniste. Et bon, moi je trouve que c'est effectivement un très bon giallo ou slasher, je sais pas bien, mais je ne sais pas quoi dire de plus que ce que vous avez déjà dit.
Johan, peut-être sur Torso.
Oui, alors Torso, ben, moi, je ne vais pas rajouter des choses parce que bon, déjà c'est un de mes préférés et puis tout a été dit, mais dans ce giallo à la campagne, il y a quand même la baie sanglante de Bava, hein, qui déjà fixe les choses. qui, pareil, hein, qui présente la nature comme une sorte de temple à ne pas profaner, et puis en fait qui est profané constamment, parce que la violence est là, immanente, et elle ne demande qu'à jaillir. Donc là, je pense encore que c'est une tendance fondamentale de cinéma années 70, début des années 80. On retrouve toujours un peu les mêmes problématiques, bon, qui sont traitées de manière très différente selon les réalisateurs. Mais bon, moi, ce que j'aime bien dans Torso, c'est au départ la ville qui pose, les premières séquences sur la grande place, là, ça pose déjà, on sait déjà qu'il va se passer quelque chose. Et en fait, le départ à la campagne, en fait, la petite étincelle qui déclenche la violence, qui va être après, presque entièrement localisée dans cette belle maison forte italienne. Du 16e, 17e siècle. Donc je pense, en fait, encore une fois, c'est un film très singulier, mais en même temps, c'est un film qui s'inspire de beaucoup de dynamiques qui sont travaillées par le cinéma italien à cette époque.
Je rajoute un truc. C'est intéressant parce que, en vous écoutant, Thomas et Johan, la façon dont vous parlez de la ville, c'est vrai que la ville, la façon dont elle est filmée, je trouve qu'elle a un truc qui est vraiment italien, comme certaines villes, comme Florence ou Rome, où on va se balader au milieu des quartiers, on va voir les bâtiments qui vont un peu cacher la vue, et d'un coup, on va arriver sur une place avec de très grands bâtiments, un peu comme si on était pris dans un labyrinthe. Et c'est vrai que le fait d'avoir des bâtiments aussi grands par rapport aux personnages, ça crée un peu une espèce de prison dont on essaye de s'échapper, mais ça crée aussi un endroit où le mal, entre guillemets, était contenu, était retenu, alors que quand on a l'ouverture vers le bucolique, on a aussi cette échappée maléfique.
Et puis tout, enfin, Johan l'a rappelé, mais c'est vrai, en parlant de la baie sanglante, la géographie, les lieux, la topographie, c'est vraiment des éléments hyper importants, en fait, du dialogue, qu'on aborde assez rarement, enfin de plus en plus ces dernières années, puisque à force d'analyser les films en long, en large, on va chercher des choses auxquelles on ne faisait pas forcément référence avant, mais ça prend un enjeu tout particulier, parce que la baie sanglante de Mario Bava, c'est un vrai tour de force. En fait, c'est un film, d'ailleurs, c'est ce qui fait dire, hein, Jean-François Roger, il le dit, enfin dans le bouquin sur Diallo, là, on l'avait rencontré, et puis il le dit lui-même, hein, c'est-à-dire que Bava, c'est fort, il trouve ça très fort. Pourquoi ? Parce que Bava fait abstraction, en fait, des règles du récit. Jean-François Roger nous dit, comme il est l'auteur de ce livre, La Rosso Sangue, mais il nous dit, Jean-François Roger, quand on le rencontre il y a quelques années de ça, ben un paquet d'années maintenant, il nous dit, oui, en fait, le Diallo a quand même quelque chose de l'ordre du naturalisme, puisqu'il y a, même si on s'en moque, mais il y a quand même des crimes, et à la fin, on sait qui est l'assassin. La baie sanglante, c'est autre chose. C'est-à-dire que la baie sanglante fait fi, en fait, c'est un peu comme si Antonioni avait fait une sorte de pré-slasher ou d'auto-da-fé du giallo, parce que c'est une sorte d'auto-da-fé du giallo que fait Bava. Hein, il casse son jouet quelque part. C'est pour ça que j'ai toujours dit que Bava était plus proche de Fulci, d'ailleurs, hein, je pense, que d'Argento. Et en fait, le personnage principal, c'est cette baie que tout le monde s'arrache. Mais il n'y a pas vraiment de personnage humain auquel on s'attache, auquel on... Ils représentent tous, on les regarde un peu comme si on observait des fourmis dans une fourmilière autour de la reine-mère. Enfin, c'est très très étrange, on n'a pas d'attache par rapport à tous ces personnages. D'ailleurs, l'irruption d'enfants à la fin confine presque à l'absurde. Et c'est très très fort, en fait, en vérité, hein, parce que ça devient un cinéma opératique, c'est-à-dire qu'on est complètement au summum du giallo, et en même temps on est à une époque où la violence monte de manière très très forte dans la société italienne, parce qu'il y a le terrorisme d'extrême droite, et puis il y a le terrorisme d'extrême gauche, en tout cas il y a débat, parce que l'extrême gauche explique qu'eux, ils ont une lutte en réaction au terrorisme d'extrême droite, enfin il y a eu plein de débats autour de ces sujets-là qu'on ne va pas avoir aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que le film de Bava traduit ça aussi. D'ailleurs, le brouillon de ce film, c'est L'île de l'épouvante, aussi de Mario Bava, dans lequel, à un moment, on voit qu'il y a des victimes et on fout les corps des victimes. Quand c'est des prolos, on les fout dans la chambre froide. Et il y a tout un discours de Bava là-dessus, c'est intéressant, alors, parce que Bava... On n'est pas vraiment ses convictions politiques. Hein. Il a un côté misanthrope, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur lui, quoi. Voilà, sur ce qu'il pensait réellement. Donc, c'est pas inintéressant. Cette comparaison avec la baie sanglante prend tout son sens parce qu'elle démontre bien déjà que la violence est partout et que la violence est là et qu'elle n'est pas forcée. Alors, elle est mue par l'appât du gain là dans la baie sanglante, mais elle apparaît aussi comme quelque chose d'illogique, d'absurde quelque part.
écoutez Culture Prohibée.
Un très beau film d'Aldo Lado en 72 qui l'a vu mourir. Parce que je crois d'ailleurs qu'il nous permet, en fait, enfin, peut-être que les auditeurs pourront davantage comprendre avec cet exemple. Bon, ça se passe à Venise, mais c'est pas la Venise de carte postale, hein, c'est pas la Venise romantique où il faut aller s'embrasser, etc., déambuler sur la plage des Doges, pas du tout. C'est une autre Venise qui émerge. Bon, ça, je sais que Jérôme connaît très très bien tous les films qui se passent à Venise, mais je l'invoque pour simplement faire comprendre à nos auditeurs que ce cinéma des fin des années 60, début des années 80, en fait, c'est un cinéma qui repose sur une mise à plat de l'espace géographique. Qu'il s'agisse d'un espace rural, qu'il s'agisse d'un espace urbain, ou qu'il s'agisse d'un espace à la fois rural et urbain, il y a complètement une mise à plat et on s'en sert pour faire émerger autre chose. Une ville qui n'existe pas, Argento, une ville qui existe, la Tarentule au ventre noir, ou un lieu naturel qui n'existe pas, qui n'existe que dans l'imagination de Bavard. Et pour Venise, eh bien, on va à rebours de toutes les images que l'on a avalées dans les films sur Venise. Et je pense que cette idée de mise à plat, elle est vraiment fondamentale pour bien comprendre comment ce cinéma s'effectue et comment, en fait, il se greffe sur ce terrorisme, comme a dit Jérôme, qui tape aussi bien de provenance de l'extrême droite que de l'extrême gauche.
Et d'ailleurs, ça fait un lien avec le dernier film dont on va parler. On parlait de Fulci à l'instant, mais effectivement, le dernier film dont on va parler aujourd'hui, qui s'inscrit dans cette époque, mais là on est après. D'ailleurs, l'enlèvement d'Aldo Moro, on est en 80, c'est La guerre des gangs de Lucio Fulci qui sort là chez Artus Film dans une très belle édition. D'ailleurs, on peut y lire, c'est un media book, et 95% du media book est écrit par Stéphane Lacombe. Et c'est passionnant parce qu'il décortique 20 Poliziotteschi, vraiment, et il nous donne même envie, hein, ceux qui ne les ont pas vus, je pense que ça va leur donner envie de voir ces polars qui s'inscrivent complètement, justement, le Poliziotesco. C'est un polar qui prend place à l'époque des années de plomb, en fait. Quand il n'y a plus les années de plomb, enfin, ce type de polar va disparaître, hein, en Italie. Alors qu'il aurait pu perdurer, parce qu'il y avait encore la mafia, quand même. Mais, parce que souvent, il y a aussi des histoires de mafia dans ces films-là. Donc, très belle édition d'Artus Film, dans lequel, en plus, il y a la BO de Fabio Frizzi. Fabio Frizzi, qui va bientôt être mis à l'honneur, d'ailleurs, par Artus Film, parce qu'ils vont sortir son autobio. Et ce film-là, La guerre des gangs, ça raconte l'histoire de Luca, qui est un contrebandier. Luca est joué par Fabio Testi, il y a son frère Mickey, ils sont à Naples, ils sont riches à millions, hein, puisqu'ils font du trafic de clopes. Et alors qu'ils sont en train de convoyer une cargaison de cigarettes, sont pris en chasse par la police, quelqu'un les a trahis. Alors ils échappent à la maréchaussée, mais peu de temps après, Mickey est assassiné. Dès lors, Luca va vivre une véritable descente aux enfers, surtout qu'un nouveau truand, en méthode vraiment barbare, et là, je pense que Fulci s'est bien lâché sur le sadisme, fait son apparition, c'est le Marseillais Marcel Bozzuffi. Marcel Bozzuffi, il a été tellement de fois le Marseillais dans les polars que c'est un peu un des rôles de sa vie. Super acteur, d'ailleurs, Marcel Bozzuffi. Et moi, je trouve, pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, alors, c'est un étrange polar dans lequel il y a vraiment Fulci, il insuffle une forme de sadisme, une violence complètement hors norme, que ce soit lors d'une attaque au chalumeau ou bien lors d'une scène d'agression sexuelle particulièrement abjecte. Hein, et l'ambiance singulière, elle est décuplée par la photo qui est vraiment superbe de Sergio Salvati et qui va transformer en fait Naples en une cité aux teintes irréelles. C'est un Naples cotonneux, c'est une autre ville en fait qu'on voit, même quand on connaît la ville de Naples. Et ça va donner un film du coup qui est un mélange de fascination et de répulsion,
comme un peu ce mélange de fascination et de répulsion qu'on peut avoir pour cette époque, parce qu'on peut en comprendre, selon le bord politique duquel on se place, les motivations, tout en étant révulsé par la manière dont les causes qu'on croyait bien servir par la violence, on a fini par les desservir. Et ça, c'est vraiment, je trouve... alors, on sent bien que le film Fulci, c'est pas ça qui l'intéresse. Hein. Lui, il veut retourner faire des films d'horreur. Ça, c'est un film de commande pour Fulci. Mais on sent bien la patte Fulci, et on sent bien qu'il y a toute son équipe, Salvati à la photo, tout ça. On sent bien que... Et il y a ce film qui, du coup, est un vrai faux polar, et qui est presque un film fantastique, presque un film d'épouvante.
Et puis ce qui est très intéressant, c'est la scène finale. Hein. Le Marseillais est tué, il tombe sur un tas d'ordures. Ça, c'est extraordinaire. Je trouve qu'il y a un retour, parce que c'est un personnage, là, Bouzoufi joue un salaud, mais terrible. La scène de violence sexuelle, c'est lorsqu'il viole la femme de l'autre, hein, mais dans une scène d'extrême violence. Hein. Je veux dire, là, on est vraiment dans l'ultra-violence. Et à la fin, en fait, une sorte de rédemption, un peu de rentrée dans l'ordre, comme disait Roland Barthes pour les films hollywoodiens, c'est qu'il est mort déjà, enfin il est tué, et il tombe sur un tas d'ordures. L'ordure revient à l'ordure, la terre revient à la terre. Enfin, c'est... Moi, je trouve que là, Fulci, comme tu dis, dans une œuvre de commande, il montre quand même que c'est un grand réalisateur de cinéma.
Moi, j'ai un peu de mal avec La Guerre des Gangs, hein. Par rapport à ce que tu disais, d'ailleurs, Gégé, je trouve que le film manque d'homogénéité. Est-ce qu'on est dans un polar? Est-ce qu'on est dans un film d'horreur, etc. Et surtout, moi, j'ai surtout un gros problème avec le scénario, c'est le personnage principal. Il ne fait rien de tout le film, il n'agit pas, il regarde comme ça, je le trouve mou, je le trouve veule, et surtout, c'est à la fin, il y a cette scène... où il pourrait dire quelque chose, mais il laisse sa femme être violée, quoi. D'ailleurs, le film ne se termine pas avec lui. Il se termine avec les mafieux du coin, etc. Donc, j'imagine qu'en fait, ça s'est pas bien terminé entre lui et son épouse, quoi, à cause de ça, quoi. Et donc, moi, j'ai vraiment du mal avec ce film à cause de ces raisons-là, quoi. Je trouve que le film, je trouve bancal dans sa construction, dans son écriture. Et ce personnage m'intéresse pas.
En fait, moi, je pense que ce personnage, il personnifie, désolé pour la redondance, mais l'omerta, c'est-à-dire l'absence de réaction, l'absence de... On laisse faire, quoi. Tout le monde laisse faire. Enfin, je veux dire, dans la précédente édition du film, qui était sortie chez The Extasio Film, il y avait une archive de l'INA dans laquelle on pouvait voir que, en fait... ce trafic de cigarettes, c'était quasiment... Enfin, c'est l'économie. C'était une économie dans Naples énorme. Donc, tout le monde laisse faire et tout le monde regarde à côté, en fait, hein, tout en sachant que derrière, il y a des gens qui s'étripent, il y a des femmes, des enfants, il y a des gens qui perdent la vie. Enfin, c'est... Et je pense que ce personnage-là, en fait, c'est un pleutre et qu'il personnifie ça. Et je pense que Fulci a de la détestation pour ce personnage. Et que donc, du coup, il lui fait pas de cadeau. Fulci a rarement été quand même quelqu'un qui avait de l'empathie pour ces personnages, quand même.
Il lui fait pas de cadeau. Après, il le laisse quand même en vie pendant une grande partie du film. Certes, sa femme subit un VVS, mais lui, le plus grand truc qu'il s'est pris, bah, c'est tout simplement qu'il s'est fait tabasser. Il y a un truc qu'on retrouve de lui, c'est son montage que je trouve vraiment énergétique. Ça se voit notamment dans la scène du club où à un moment, il y va pour essayer de parler à l'un de ses membres pour expliquer un de ses compères, lui expliquer qu'ils ont perdu de l'argent, que ça peut devenir problématique. Et on a une scène qui se passe dans un club où il alterne les gens qui dansent, les flashs lumineux. Il met en avant des choses qui le ramènent de l'horreur. Hein. Il met autant de sang que de sein au cours de son film. Et c'est vrai que ce personnage, durant toute l'histoire, il se fait un peu balader de gauche à droite sans faire grand-chose, à se demander si soit son frère était pareil, soit si c'est lui qui menait la danse ou est-ce que lui aussi était pareil. Parce que quand il perd son frère, il veut faire quelque chose, mais au final, il fait pas grand-chose. Il tente un truc à un moment, c'est d'essayer de se prendre à la personne qu'on accuse du meurtre de son frère parce qu'il y a de grandes chances que ce soit lui. Mais même ça, il échoue. Et au final, c'est l'autre qui prend pitié de lui, qui l'abandonne sur son matelas. Et même la scène finale, on a un peu toute cette vieille mafia qui se réveille pour aller punir finalement le Marseillais qui a montré une grande cruauté et qui a essayé de tout s'approprier. En effet, comme le disait Thomas et comme tu as appuyé Jérôme, c'est pas Luca D'Angelo qui au final lance l'assaut final, c'est vraiment une sorte de vieille garde qui débarque en disant non, il faut maintenir les choses telles qu'elles sont.
Il y a d'ailleurs beaucoup d'ironie dans cette scène.
Ouais, c'est le retour à l'ordre, à un certain ordre établi. Voilà, d'ailleurs... c'est 2 ans avant la loi sur le repentir. Hein. Donc Je veux dire, c'est, pour moi, le film, il va pleinement dans la thématique qu'on a développée là pendant l'heure d'émission. Hein.
Tout à fait.
Je rappelle donc que nous avons parlé du livre « Rosso Sangue, le cinéma italien des années de plomb » de Jean-François Roger, disponible chez Façonnage Édition, un des meilleurs livres de cinéma pour l'instant de cette année 2026. Et on a parlé des films « Le tueur frappe trois fois » de Massimo Dallamano, disponible chez Rimini Édition, « La tarentule au ventre noir » de Paolo Cabara et « Torso » de Sergio Martino, disponible chez Carlotta Film. Et puis « La guerre des gangs », un film de Lucio Fulci qui ressort chez Artus Film dans un superbe Mediabook. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr et Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Johan Chanoir, dit Le Chat Errant, Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.